messieurs, chers collègues, bonsoir. Donc, nous allons ouvrir cette séance du Conseil municipal. Comme il se doit, je vais procéder à l'appel. J'aurais tendance à dire à l'appel des rescapés ce soir. Mais quelques informations. Donc, Michel Biou est présent. Clotilde Delagoutte.
Présente.
Alain Veller est absent, il est excusé, représenté par Marie Hollas. Stéphanie Charret est absente, est excusée, représentée par Clotilde Lagoutte. Concernant Stéphanie Charret, je dois vous informer qu'elle a été reçue à un concours d'attaché de la fonction publique d'État, qu'elle est depuis le 1er septembre en formation pour 8 mois à Nantes. Ce qui l'amènera malheureusement à être un petit peu moins présente, bien qu'elle continue d'assurer pleinement ses fonctions à distance. Il y aura des périodes de stage en Seine-et-Marne où elle pourra donc être présente au Conseil. Bon, c'est un peu compliqué de lui demander d'être présent le lundi soir, de faire l'aller-retour de Nantes. Didier Moreau est absent. Je dis qu'il était représenté par Clotilde Lagoutin. Didier Moreau est absent, excusé, représenté par Roger Cypré. Marina Descotes-Galli est bien présente. Je vous propose de la nommer secrétaire de séance. André Palancade.
Présent.
Anne-Marie Hollas.
Présent.
Claude Godard.
Présent.
Sylvie Galochet est absente, excusée, représentée par Simone Jérôme. Donc Sylvie se remet d'une intervention chirurgicale qui va la clouer au lit. Enfin, je ne sais pas si elle résistera pendant un mois à peu près. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Roger Cypré.
Présent.
Samira Boujidi est absente, excusée, représentée par Virginie Salitra. Jacob Nalouna est absent, excusé, représenté par Sandrine Nagel. Donc Jacob a changé de métier, il est maintenant ambulancier et il a des petits soucis avec son employeur pour que celui-ci le dégage le lundi soir. Donc on va faire le nécessaire pour rappeler aux employeurs quels sont les droits des élus, mais c'est toujours un peu délicat parfois. Simone Jérôme.
Présente, monsieur.
Charles Murat est absent, excusé, représenté par Daniel Boudet. Virginie Salitra.
Présente.
Karine Jarry est absente, excusé, représentée par moi-même. Alors, Karine Jarry est en cure. Voilà. Michel Veu est absent, excusé, représenté par André Palancade. Daniel Boudet.
Présente.
Pascal Huet.
Présente.
Sandrine Nagel.
Présente.
Mehdi Ben Salem.
Présent.
Jean-Pierre Gabarou.
Présent.
Monique de Villene est absente, excusée, représentée par Madame Eusdeviès. Catherine Eusdeviès.
Présent.
Serge Saussier.
Présent.
Pascal Docker.
Présent.
Rachida Mouali et Stéphanie Schutt. Voilà. Merci. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Donc, comme d'habitude, il nous revient d'approuver le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal en date du 4 juillet 2016. Je n'ai pas reçu d'observation particulière. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Il s'y oppose, comme d'habitude, c'est un principe, qu'il l'adopte. Très bien. Donc 22 voix pour, 7 contre. Y a-t-il des questions, des commentaires à faire concernant les décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre de l'article L21-22-22 du CGCT, entre le numéro 31 et le numéro 36? Monsieur Desbarou.
Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, monsieur Billou.
Monsieur le maire, ici.
Pardon, excusez-moi, c'est vrai. Monsieur le maire. Donc simplement deux petites réflexions sur la 31. Dans l'article 2, c'est le coût de ce service est au nombre de 60 loyers trimestriels. Or, ça ferait 15 ans d'allocation. Or, c'est sur 60 mois.
Oui.
Alors, c'est soit 20 échéances trimestrielles, soit 60 mensualités.
Il semble qu'il y ait effectivement une erreur dans l'article 2.
Okay. Voilà.
Ouais.
2 et 3, oui. Le 3 aussi.
Oui, ils sont échéances trimestrielles. On le revérifiera. On vous donnera des précisions par rapport à cela. D'autres sujets ?
Après, nous nous posons des questions sur la 32, dans le sens où la concession est accordée à titre gracieux, alors que toutes les autres concessions sont moyennant une certaine somme.
Oui. Dois-je vous rappeler l'accident de Courte-Orange ?
D'accord.
Ah, voilà. Je n'en dirai pas plus.
Oui. Non. Voilà.
Mais on renverra la question du contrat de location. Effectivement, durée irrévocable. Oui, c'est un contrat en fait sur 60 mois et la périodicité des loyers est trimestrielle. C'est comme ça, bien entendu, qu'il faut l'entendre. Mais du coup, la rédaction de la décision ne colle pas. Voilà. Donc, faudra sans doute revoir cette décision. Le contrat porte effectivement durée irrévocable 60 mois, loyer périodicité trimestrielle, nombre de loyers c'est 20, donc et ils sont 20 loyers de 1110 euros, donc le contrat est juste, mais la décision qui l'accompagne n'est pas correctement rédigée. Dont acte. Concernant maintenant les conventions signées par moi-même, toujours du numéro 67 au numéro 181. Donc, il y a énormément de mises à disposition des bassins de centrales aquatiques. Ça, vous en avez un paquet. C'est essentiel d'ailleurs. Y a-t-il des questions, des commentaires, mises à disposition de différents locaux aussi pour les associations ? Il n'y en a pas. Très bien, nous allons donc pouvoir.
Excusez-moi, d'ailleurs, monsieur le maire, dans la convention, justement, c'est bien rédigé, hein, la convention 86, c'est bien marqué durée irrévocable 60 mois, loyer de périodicité trimestrielle et le nombre 20.
Oui, oui, mais ça c'est. Voilà. Non, mais c'est dans la convention, oui, effectivement.
Alors,
voilà. C'est des choses qui arrivent. L'essentiel, c'est que le contrat, lui, soit convenablement rédigé. Bien, nous allons aborder l'ordre du jour de cette séance par le projet de délibération 2016 septembre 109. Portant donc sur la convention relative à l'aménagement d'un giratoire sur la route départementale 619 à Nangy. Donc c'est une délibération qui a déjà été examinée lors du conseil communautaire de jeudi dernier. Monsieur Godard, vous nous la présentez ?
Oui, monsieur le maire, merci. La communauté de communes de la Brie-Nangicienne, désireuse d'étendre le potentiel économique local, a créé la ZAC Nangy Actipol, située à l'entrée est de la commune de Nangy. Au lieu dit Le Châtel, elle se situe sur la RD 619. La ZAC Nangy Actipol, réalisée en régie avec l'assistance d'aménagement 77, est localisée en face de la zone industrielle existante, dont l'accès est actuellement géré par un carrefour à feu sur la RD 619 à l'entrée est de l'agglomération en zone périurbaine. Cette section de la RD 619 enregistre un trafic journalier important, notamment lié aux poids lourds desservant la zone industrielle. Ce trafic va s'accroître avec l'aménagement de la nouvelle zone d'activité. Aussi, il a été décidé entre la communauté de communes de la Brie-Nangicienne, la commune de Nangy et le département, dans le cadre de la création de la ZAC Nangy Actipol, d'aménager un giratoire d'accès sur la RD 619. Celui-ci permettra d'assurer la desserte de la ZAC Nangy Actipol dans de bonnes conditions de sécurité. Cet aménagement permettra également d'améliorer la desserte de la zone industrielle existante et de marquer l'entrée de ville. Ce carrefour, compte tenu de sa localisation, sera intégré dans l'agglomération à l'issue des travaux. Pour rappel, le démarrage des travaux de la première tranche comprenant l'aménagement du giratoire d'entrée en zone de la ZAC dans Giractipol est prévu fin 2016 et le coût estimé du giratoire s'élève à 480 000 euros. Le département de Seine-et-Marne autorise la communauté de communes à réaliser ces travaux. Une convention a donc été établie afin de fixer les obligations de toutes les parties. La convention a pour objet de préciser les équipements à réaliser, le programme technique des travaux, les engagements financiers des parties et le transfert des emprises foncières, ainsi que les modalités d'entretien ultérieur. Concernant les engagements de la commune, elle porte sur l'entretien et la maintenance des équipements routiers, ainsi que du dispositif d'éclairage public. Nos collectivités, en relation continue avec l'agence routière territoriale, ART de Provins, du département de Seine-et-Marne, pour finaliser le projet de giratoire depuis 2013, et le projet de convention a été finalisé au premier semestre 2016. L'objectif de commencement des travaux est prévu pour la mi-novembre 2016. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette question.
Voilà, donc vous avez reçu sous format électronique donc le projet de convention. Ils ont été examinés effectivement jeudi, donc certains d'entre vous l'ont déjà parcouru. Je dirais que c'est effectivement l'achèvement de 3 ans d'études avec l'ART. Hein. Ça n'a pas été une opération facile. Et j'en profite pour informer le conseil. Et puis le public, que le département en a profité pour exiger que nous déplacions les panneaux d'entrée de la commune. Alors, je dis, bon, considérant que puisque nous avions urbanisé sur le côté droit et qu'auparavant nous avions une convention qui faisait que le côté gauche, quand on vient de Provins, hein, en allant sur Paris, était entretenu par la ville, mais que le côté droit était toujours entretenu par le département. Donc dorénavant, nous entretiendrons, la ville entretiendra toute la route départementale 619 avant le giratoire et jusqu'au feu, route de Paris, le feu qui permet de desservir la Sucrerie, ou un petit peu avant. Hein. Les panneaux d'entrée de ville sont un petit peu avant. Bon, voilà. Petit transfert de charge aux passants. Voilà, que nous avons malgré tout accepté parce que nous ne souhaitions effectivement absolument pas bloquer en quoi que ce soit ce projet. Donc les appels d'offres sont lancés par la communauté de communes. Donc, les propositions des entreprises seront connues très très bientôt. Donc le marché devrait être accordé et enfin. Les débuts de travaux de Nangis-Sectipol par l'entrée, ce qui est essentiel, puisque tant qu'on ne peut pas rentrer sur les terrains, on peut difficilement commencer les travaux d'aménagement de voirie. Voilà. Y a-t-il des questions, des commentaires sur ce sujet ? Donc je mets aux voix cette délibération hein, qui m'autorise donc à signer cette convention tripartite. Qui s'oppose à cette délibération, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. Nous allons passer à la prochaine délibération suivante, 2016 septembre 110, désignation d'un référent sécurité routière au sein du conseil municipal. C'est M. Cyprès qui nous présente cette délibération.
Merci Monsieur le maire. Par un courrier en date du 2 août 2016, le préfet de Seine-et-Marne rappelle que la lutte contre l'insécurité routière constitue l'un des axes prioritaires de la politique du gouvernement. Le département de Seine-et-Marne est particulièrement concerné. En effet, en 2015, 91 personnes ont été tuées dans des accidents de la route. C'est la raison pour laquelle le préfet prévoit le renouvellement de la charte de partenariat entre la préfecture et l'Union des maires de Seine-et-Marne, signée initialement en 2006. À ce titre, et dans l'optique de ce renouvellement, il est demandé à chaque commune de désigner au sein de leur assemblée délibérante un ou une élue, référent ou référente, sur la sécurité routière, dont le rôle est de diffuser les informations relatives à la sécurité routière, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale au titre de sa collectivité. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir procéder à la désignation de l'élu ou de l'élu E, référent ou référente, sécurité routière au sein du conseil municipal. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, toute nomination doit être votée au scrutin secret, sauf accord à l'unanimité du conseil municipal.
Voilà, mais il nous reste donc à savoir s'il y a des candidats à ce poste. Vous allez me permettre de présenter quand même une candidature, puisque il y a parmi nous un élu qui a mis en place depuis très très longtemps la semaine de sécurité routière, qui travaille quand même activement à toutes ces questions. Il s'agit de Michel Veux, il n'est pas là ce soir, c'est donc mon adjoint en charge des questions de sécurité générale et de tranquillité publique. Voilà. Y a-t-il d'autres candidats ? Il n'y en a pas. Est-ce que nous pouvons prendre un accord unanime pour ne pas procéder au vote à bulletin secret ? Pas d'opposition ? On va gagner du temps. D'accord. Je vous remercie de cette facilité. Et donc, à l'unanimité, je vous propose donc de désigner Michel Veux comme... Oui, excusez-moi.
Non, mais pas d'objection sur la nomination.
Mais prenez le micro, par contre.
Excusez-moi. Oui, pas d'objection sur la nomination de M. Veux, bien évidemment. J'aurais souhaité, si vous le pouvez, avoir quelques précisions sur l'émission au-delà des deux lignes qui sont données dans la notice explicative sur l'émission de ce, je dirais, entre guillemets, délégué à la sécurité routière. Au sein de notre collectivité, monsieur.
Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire davantage, puisqu'on a repris mot pour mot dans la notice explicative le contenu du courrier du 2 août 2016 du préfet. Voilà, donc on rappelle que la sécurité routière est un axe prioritaire du gouvernement, nanani nananer. Il y a de fait dans de nombreuses collectivités des élus qui sont déjà en charge de ces questions. Simplement, donc le gouvernement a souhaité, dans le cadre de la charte de partenariat entre la préfecture et l'Union des maires de Seine-et-Marne, nommer officiellement. Voilà. Je vous le redis parce que j'en sais pas plus. Je vais vous faire lecture in extenso de cette lettre. Désignation des référents sécurité routière. La lutte contre l'insécurité routière constitue l'un des axes prioritaires de la politique du gouvernement. Le département de Seine-et-Marne est particulièrement concerné avec, en 2015, 91 personnes tuées dans un accident de la route. Les maires occupent une place primordiale pour améliorer la sécurité de ceux qui circulent dans leur commune ou leur groupement de communes grâce à différentes compétences mobilisées en matière d'urbanisme, de voirie, de signalisation, d'aménagement routier, de pouvoir de police et de prévention. Quand on a besoin des maires, vous savez, passer la main dans le dos, c'est pas mal. Pour l'aider à mener à bien les actions locales, chaque maire peut désigner au sein du conseil municipal un élu référent sur la sécurité routière, dont le rôle est de diffuser des informations relatives à la sécurité routière, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale au titre de sa collectivité. Ça va être un lien avec le département. Bon, on travaille déjà avec la prévention routière, qui est une association... Pour donner toute son envergure à la lutte contre l'insécurité routière, la préfecture se fait le relais de la politique de l'État, notamment en développant depuis 2006 un partenariat avec l'Union des maires qui incite les collectivités territoriales à nommer un élu correspondant sécurité routière qui assiste le maire. L'élu référent sécurité routière devient l'interlocuteur privilégié des services de l'État. Donc en fait, simplement, on va positionner quelqu'un qui sera contacté par les services en cas de besoin, en cas de projet. J'envisage de renouveler prochainement cette convention, c'est le préfet qui le dit, hein, qui lie la préfecture et l'Union des maires de Seine-et-Marne. Plusieurs d'entre vous ont depuis plusieurs années déjà nommé ces élus référents sécurité routière. Pour autant, je tiens aujourd'hui à dresser un état des nominations déjà effectuées et de celles qui le seront prochainement. Donc c'était pas une fonction, voilà, c'était dans le cadre d'une fonction générale de sécurité générale. Mon objectif est de valoriser les actions menées dans le département, de favoriser l'animation du réseau des référents par l'information et la formation. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me faire parvenir le nom, les coordonnées du référent sécurité routière de votre commune. D'accord. Donc on passe par votre délibération pour que les choses soient officielles. Qu'est-ce qu'il en sera fait après? Ah, on vous tiendra au courant. Hein,
voilà. Vous conviendrez avec moi que c'est quand même des missions qui sont très vagues.
C'est pour ça que je me suis permis de vous dire ce que je savais exactement. Et voilà, bon, il y a des réseaux. Enfin, c'est vrai que le réseau de la prévention routière dans le département anime un certain nombre d'actions. Nous travaillons très très bien avec ce réseau. Il y a eu ici la remise des prix, du prix départemental, etc. On continuera de le faire. Notre axe majeur ici, c'est effectivement la semaine de la sécurité routière qu'on va continuer, on va tâcher de l'amplifier. Et puis si on est sollicité par la préfecture pour des actions de caractère départemental ou pour des actions pilotes ici, voilà, on est tout à fait prêt, bien entendu, à y apporter toute notre contribution. Voilà. Donc on peut considérer que Michel Veu est donc notre référent sécurité routière officiel. Je vous en remercie. La délibération suivante, 2016, septembre 110. 111, pardon. Voilà, c'est moi qui vous l'ai présentée. Elle est très rapide, habituelle. Afin de nommer deux agents qui peuvent prétendre un avancement de grade après réussite à l'examen professionnel, il est nécessaire de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint du patrimoine de première classe à temps incomplet à raison de 25/35e et un poste d'adjoint du patrimoine de première classe à temps complet. Donc j'ai déjà fait remarquer à mon service des ressources humaines qui nous promet qu'à partir de 2017, on va commencer à supprimer des postes. Sur lesquels il y a des agents, mais à supprimer les supports, voilà, qui nous permettent de nommer tel agent dans son grade. Voilà. Mais là encore, je vous dirais, si vous me posez la question, je vous dirais la même chose. Ça n'a pas été la priorité pour nous de procéder à ce travail-là qui nécessite quand même quelques heures de boulot. Le service des ressources humaines a des priorités plus importantes, mais j'ai demandé qu'à partir de 2017, à chaque fois qu'il y a des créations de postes, on puisse en supprimer quelques-uns. Voilà. Y a-t-il donc des commentaires? Je vous en prie, monsieur Saussier.
Monsieur le maire, bon, vous avez en partie répondu à l'intervention que je me préparais de faire. Et puis, j'irais dans la présentation de la délibération, vous avez dit, voilà, c'est une présentation un peu habituelle. Voilà. Donc, moi, j'avais préparé une intervention qui tombe un petit peu à plat, puisque vous répondez un peu à ma première question, dans la mesure où vous avez effectivement demandé à vos services de préparer un organigramme dans lequel, effectivement, je veux dire que les missions qui sont dévolues aux services de notre collectivité doivent être, organisées, grade par grade, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle. Donc, bon, nous espérons bien évidemment que cet organigramme nous soit proposé dès que possible. Et vous m'aviez effectivement poliment répondu à l'une de mes interventions, reportant ce projet dès l'instant où vos services en auraient la possibilité d'élaborer cet organigramme. Donc, voilà. Donc, la réponse au projet d'organigramme, je l'ai, pratiquement, vous promettez qu'elle sera, que ce projet sera effectif dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, nous suivrons bien évidemment cette question. une autre question aussi que j'aurais voulu vous poser. La promotion d'agent doit être normalement suivie d'une modification de la fiche de poste, prenant en compte des missions plus complexes ou des responsabilités supérieures correspondant au grade du nouveau promu. Cette disposition est-elle respectée dans les services de notre commune? Et comme je le pense, vous êtes respectueux du statut de la fonction publique, et donc dans ce contexte, qui prendra en charge les missions qui seront de facto abandonnées par le nouveau promu? Puisque, je dirais, dès l'instant où on met en fonction de cette ascenseur social qui nous réjouit, puisque dès l'instant où un agent est promu, et donc c'est sans doute qu'il l'a mérité, donc il doit accéder à des missions complémentaires. Et depuis, un certain nombre de délibérations dans lesquelles on a été amené à s'exprimer, donc on a une succession de promotions. Donc je dirais, promotion, ça veut dire accéder à des missions supérieures. Derrière, qui exécute les missions de base? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser.
Deux éléments de réponse. D'une part, ce que nous présentons devant le conseil municipal, ce n'est pas l'organigramme des services, mais c'est le tableau des effectifs. Donc ça, c'est le document normal, légal, qui vous permet de suivre l'évolution des effectifs d'une année sur l'autre, qui a donc deux colonnes, le nombre de supports budgétaires théoriquement créés, et puis le nombre de postes réellement pourvus. C'est donc mon engagement consiste à toiletter ce tableau dans la première colonne et à retirer un certain nombre de postes lorsqu'ils sont en très très grand nombre et qu'on n'aura pas forcément la nécessité de les utiliser de façon à ce que entre cet effectif théorique et l'effectif réel, on resserre un petit peu les extrémités. Après, en ce qui concerne notre politique d'avancement, de promotion interne, clair que c'est une volonté de l'équipe majoritaire d'encourager nos agents en leur facilitant cette promotion. Ça ne nécessite pas forcément une promotion lorsqu'on passe d'adjoint du patrimoine de seconde classe à adjoint du patrimoine de première classe. On n'est pas forcément sur une modification du profil de poste. Il nous est arrivé de ne pas nommer des agents lorsque le profil de poste nécessitait, par exemple, d'encadrer un groupe d'agents. On a comme ça des agents qui ont réussi l'examen d'agent de maîtrise, mais qu'on n'a pas nommé agent de maîtrise parce qu'on n'a pas la fonction en face. Ce qui peut d'ailleurs parfois être assez mal vécu par des agents. Mais on ne va pas créer un service particulier ou un groupe. Là, il y a un toilettage très régulier des fiches de poste. C'est un gros travail qui est fait. Ça fait partie d'ailleurs des priorités du service des ressources humaines, et qui est un travail considérable. Donc on peut avoir effectivement des avancements de grade qui vont permettre d'élargir ses fonctions. Quelquefois d'ailleurs, ce n'est pas forcément en perdant, mais en gagnant aussi d'autres, parce que l'expérience acquise, ça permet aussi de travailler parfois plus efficacement. Tout simplement. Donc il n'y a pas de corrélation sur un avancement de grade. Je rappelle que c'est un avancement de grade. C'est pas. Mais il nous faut avoir le support budgétaire. Donc on ne l'avait pas. On propose de le créer, de permettre effectivement à suivre cette petite promotion. Mais qui sans quoi ferait que nos agents, qui sont quand même pas parmi les mieux payés, la fonction publique territoriale, pourraient un petit peu se lasser. Je rappelle que c'est pas quand même une promotion, un avancement systématique. On peut s'opposer lorsqu'on a des reproches. très important à faire, un agent où on a dit lorsque cet agent avait connu une période d'absence très, très, très importante, on a modulé, on tient compte de l'année N et de l'année N-1. Si c'est un accident de parcours, on ne va pas le sanctionner. Si l'année N-1 s'est passée normalement, donc en général, on regarde la problématique des absences sur deux années avant de la prendre en compte. Mais en même temps, on essaie de tenir compte aussi de ce paramètre. Voilà, monsieur Saussier, ce que je souhaitais vous dire. Je vais mettre la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération 2016-septembre 112, qui concerne un complément de tarification de participation aux activités organisées par le service municipal de la jeunesse pour l'année 2016, et ce qui concerne tout particulièrement la deuxième session de formation BAFA 2016. C'est madame Lagoutte qui nous la présente. Je passe le micro.
Merci, monsieur le maire. Dans la continuité du service du dispositif jeunes et insertion mis en place en début d'année par l'organisation au sein du service municipal de la jeunesse d'une session de formation générale BAFA, il est proposé aux jeunes ayant validé leur stage pratique cet été de poursuivre et finaliser leur cursus d'apprentissage en s'inscrivant à la session théorique d'approfondissement en octobre. Ce projet, investi par les jeunes, et notamment par les jeunes membres élus du Conseil local de la jeunesse, à l'initiative de cette réflexion, ce dernier jouant un rôle important dans l'information et la communication de ce dispositif auprès de leurs pairs. Il met en avant la participation et l'implication des jeunes Nangiciens au volontariat. Le BAFA est un brevet volontaire d'aptitude aux formations, aux fonctions, pardon, d'animateur et à l'autonomie. Premier emploi, mobilité, aide à l'accès à l'entrée à certaines formations, financement indirect à des projets tels que le permis de conduire par exemple. Pour intégrer cette formation, le jeune devra avoir validé les deux premières étapes du BAFA, c'est-à-dire la formation générale d'une durée de 8 jours, 24 participants à la session de février, dont 85% de Nangiciens de 17 à 30 ans. Et effectuer le stage pratique de 14 jours effectifs dans un accueil de loisirs sans hébergement et en séjour de vacances, anciennement colonie de vacances. L'objectif est de permettre aux jeunes stagiaires BAFA d'être titulaires d'un brevet le plus tôt possible dans l'année, pour favoriser leur embauche et ainsi développer l'acquisition de compétences spécifiques. De fait, leur choix s'est porté sur une thématique d'approfondissement adaptée aux besoins locaux des stagiaires. Il s'agit donc de la thématique « Grand jeu, animation citoyenne et activité de découverte de l'environnement ». Elle répond d'une part à la capacité du futur animateur à aborder le jeu dans sa pratique professionnelle et d'autre part aux orientations définies dans le projet éducatif de territoire, PEDT, autour de l'éveil, la curiosité, la découverte de l'environnement et des valeurs citoyennes, respect, solidarité, engagement. L'organisme de formation, le CEFAG, même organisme que pour la précédente session, déroulera cette session en demi-pension du lundi 24 au samedi 29 octobre 2016 pendant les vacances d'automne de 6 jours, au sein de l'espace jeune avec 15 stagiaires au minimum. Afin d'en faciliter l'accès au plus grand nombre, la ville participe en mettant à disposition des locaux, en prenant en charge les repas du midi pour l'ensemble du groupe, stagiaires et formateurs, ainsi qu'à l'hébergement des formateurs. Un partenariat avec le CFA BTP a été mis en place. Au regard de la délibération 2016-janvier-008 du 25 janvier 2016, il est donc nécessaire de compléter la grille tarifaire des activités du service municipal de la jeunesse en la modifiant comme suit. Donc, session d'approfondissement, session théorique BAFA, stagiaire Nangicien, 250 euros. Pour les stagiaires extérieurs, dont ceux de la communauté de communes, 265 euros. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver le complément de tarification de participation aux activités organisées par le service municipal de la jeunesse pour l'organisation des sessions théoriques d'approfondissement BAFA in situ.
Merci, Madame Lacoute. Y a-t-il des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, je vais quand même en faire parce que c'est une action, je trouve, assez exemplaire, dont l'initiative revient au Conseil local de la jeunesse, en constatant que cette formation, qui est une formation certes volontaire mais payante, et parfois fort chère, puisque là, les tarifs qu'on vous propose sont le tarif exact, effectivement, que nous facture l'organisme de formation, parce que nous prenons, effectivement, en charge un certain nombre de prestations. Mais il n'est pas rare qu'un organisme de formation facture plutôt un coût de l'ordre de 400-450 euros. Donc, stage de base, c'est à peu près ça. Stage, donc, ça fait à peu près 1000 euros. Alors, vous savez, c'est quand même un peu moins cher encore que le permis de conduire. Mais dans une période où souvent, il faut aussi trouver les moyens de financer le permis de conduire, voilà, c'est une action qui va permettre à un certain nombre de jeunes de poursuivre leur cursus. Grand succès, hein, donc, dans la session de base, hein, puisque près de 25 jeunes, qui 24 participants, hein, donc à la section du mois de février. Bon, tous n'auront pas eu l'occasion encore de faire leur stage de perfectionnement, puisque pour valider un BAFA, c'est un stage de base, un stage pratique, donc en accueil de loisirs ou en séjour de vacances, et le stage de perfectionnement ensuite. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'ouvrons pas autant de places que ce qu'il y en avait en février, puisqu'il y aura sans doute un peu moins de candidats, mais en tous les cas, nous nous inscrivons en droit de suite par rapport à cette session du mois de février. Donc à tout point de vue, je trouve que c'est une excellente action. Que je vais vous demander d'approuver. Donc, qui s'oppose à cette délibération, qui s'abstient, avec adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Une autre belle action, projet de délibération 2016, septembre 113. Monsieur Saussier, allez-y. C'est en verve aujourd'hui, c'est bien.
Non, pour information, simplement. Quel est le taux de réussite finale par rapport au nombre de candidats, pour information?
En règle générale, le BAFA, si toutes les sessions sont suivies, c'est quand même assez exceptionnel qu'il y ait un échec. Par contre, il peut y avoir un abandon dans le cursus. On démarre, et puis un changement peut-être d'orientation, changement dans la vie, et puis on oublie de terminer sa session. Et c'est plutôt souvent comme ça que ça se passe. En général, si on s'aperçoit qu'un jeune pose quelques problèmes aux fonctions d'animateur, souvent c'est dès la première session qu'on s'en aperçoit. Enfin, moi-même, j'ai été formateur, et c'est souvent à ce moment-là qu'on repère des gens qui peuvent peut-être, enfin, qui ne sont pas réellement adaptés à ce type d'activité. Mais ensuite, donc, vous avez une validation de la première session, une validation du stage pratique, qui est importante aussi. Voilà, ça permet aussi de... Et puis ensuite, voilà, si on va au bout, on est en général garanti de la réussite. J'avais fait voter ?
Oui.
Oui, d'accord. Oui, j'allais pas. Oui, excusez-moi, fatigué ce soir. 2016, septembre 113, je parlais d'une autre réussite, un beau projet, et qui se solde donc par une convention d'objectifs et de financement de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne relative à la mise en place d'une aide financière Fonds public et territoire, axe 1, handicap jeunesse. Et je passe la parole à Marie Aulas pour vous présenter cette action.
Merci, Monsieur le maire. La présente convention, établie pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide financière attribuée dans le cadre du Fonds public et territoire pour l'équipement des accueils de loisirs maternels, la maison des Pitchounes, pour le temps des nouvelles activités périscolaires, les NAP, et les accueils pré- et post-scolaires. La convention d'objectifs et de gestion porte de fortes ambitions en termes de réduction des inégalités territoriales et sociales. Il s'agit de réduire les inégalités tant en ce qui concerne le niveau de service rendu que la nature des réponses mises en œuvre sur les territoires. Le projet répond aux objectifs de l'axe 1, renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap, notamment sur les temps des nappes et sur les accueils pré- et post-scolaires maternels. Il vise à permettre l'ouverture d'esprit sur le monde du handicap par des actions de communication auprès des familles, mettre en place des espaces de dialogue entre les familles et les professionnels. Ensuite, recruter du personnel, mobiliser et soutenir les équipes par des formations sur l'accueil du jeune enfant porteur de handicap, mettre les parents au cœur du projet, mettre en synergie les acteurs du milieu ordinaire et du milieu spécialisé. Le financement de la caisse d'allocation familiale s'élève à 15 883 euros pour l'année 2016 et 27 461 euros pour l'année 2017, ce qui représente un taux de financement de 80% du coût du projet. Et comme l'a dit Monsieur le maire, c'est une belle victoire et j'en remercie encore les agents des accueils de loisirs, du projet éducatif des territoires et du service financier qui ont bien travaillé pour ce projet.
Avec une belle reconnaissance de la qualité du projet par la caisse d'allocation familiale, financement à 80%. Voilà, ça arrive parfois, mais c'est quand même assez rare. Voilà, donc je précise qu'il y a donc un volet sur les activités périscolaires et sur les accueils pré-postscolaires, et un volet également sur le mercredi après-midi. Donc il y aura un équilibre de financement qui sera trouvé avec la communauté de communes, donc qui gère le mercredi après-midi. Des questions? Non. Donc je mets aux voix cette délibération qui m'autorise à signer la convention, qui s'y oppose, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité. Projet de délibération 2016-714, demande d'aide financière au coût de fonctionnement des équipements sportifs utilisés pour la pratique de questions physiques et sportives auprès du conseil départemental pour le collège René Barthélémy à Nangy. C'est M. Balancade qui nous présente ce projet de délibération.
Merci Monsieur le maire. Les articles L3211-1 et les suivants du Code général des collectivités territoriales précisent que les départements ont l'obligation de participer financièrement à l'utilisation des équipements sportifs. Ils doivent donc prendre en charge les frais de fonctionnement liés à la mise à disposition par les communes et les intercommunalités d'équipements sportifs au profit des collèges dans le cadre de la pratique de l'éducation physique et sportive. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée départementale a décidé, au cours de sa réunion du 27 mai 2016, de mettre en place un dispositif d'aide financière en faveur des communes et des intercommunalités. La participation financière s'élève à 33 euros maximum par élève, plafonnée par catégorie de collèges, à savoir 13 000 euros pour les collèges 400, c'est-à-dire une capacité d'accueil supérieure ou égale à 450 élèves, 20 000 euros pour le collège 600, capacité d'accueil 500 à 675 élèves, 26 000 euros pour les collèges 800, capacité d'accueil 700 à 850 élèves, et 33 000 euros pour les collèges 1000, capacité d'accueil 900 à 1000 élèves. À Nangy, dans le cadre de ses activités sportives, le collège René Barthélémy occupe différentes structures, notamment le gymnase à raison de 1526 heures par an, le stade et piste 1526 heures par an, la halle des sports 27 heures par an, la salle de danse 7 heures par an, la salle des arts martiaux 168 heures par an et la salle de tennis de table 1090 heures par an, soit un total donc de 4344 heures par an. Le nombre d'élèves au collège René Barthélémy à Nangy est de 706 élèves, donc on devrait se situer dans la fourchette du collège 800, donc de 26 000 euros. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce dossier.
En fait, le collège René Barthélémy est un collège 1000 élèves. D'accord, hein, mais la subvention sera... Alors, donc il y a un plafond de 33 000 euros, mais c'est le nombre réel, c'est l'effectif réel qui sera pris en compte donc, pour le calcul de la participation financière. Y a-t-il des observations, des questions ? J'en vois pas. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut voter contre une demande de participation financière, je souhaite bon courage. Je vais mettre aux voix quand même. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, 2016-septembre 115, modification du règlement intérieur de la médiathèque municipale Claude Pasquier. Là, c'est toujours M. Palancat qui va nous la présenter.
La médiathèque Claude Pasquier possède un fonds de plus de 40 000 documents, à savoir dont 34 000 livres, dont 18 000 livres adultes et 16 000 livres enfants, 5 000 CD et 1 500 DVD. Les prix ont tendance à diminuer depuis quelques années, donc suivant la courbe que vous avez sous les yeux. Les augmentations du nombre de prêts remarquées sur le graphique correspondent à 2003 à la création du fonds de DVD et en 2012 l'augmentation du nombre d'emprunts par 4, sans compter la création de cartes pour les enseignants ou pour les collectivités partenaires. Malgré nos mises en valeur de thématiques et nos présentations sur table, les étagères de la médiathèque ne permettent plus de faire un choix des ouvrages tant les rayons sont remplis. Les réserves bibliographiques de la médiathèque sont toutes pleines. Et afin de booster les prêts, il est proposé le prêt illimité pour permettre aux lecteurs d'emprunter autant qu'ils le souhaitent. Ainsi, les collections plus anciennes seraient peut-être moins exclues du prêt que les nouveautés. Cette formule sera accompagnée de restrictions sur les nouveautés afin que les premiers arrivés ne disposent pas systématiquement des ouvrages les plus récents. Actuellement, un abonnement permet d'emprunter 10 documents papier, 6 CD et 3 DVD. Les DVD sont toujours des demandes, sont très demandés, les étagères sont pleines et il paraît difficile de faire un tri comme les livres et donc désélectionner. Il est donc souhaitable que les lecteurs profitent de ce fonds. La contrainte de partage.
Du portage, pardon.
Fera que chacun sera raisonnable dans ses emprunts. Donc ce procédé a été testé pendant l'été. Les lecteurs sont restés très raisonnables sur cette mesure de prendre ce que vous pourrez être capable de lire, écouter ou regarder pendant cette période. La période ne changeant pas. Il existe une certaine logique entre le nombre de prêts et le nombre d'inscrits. L'un influence l'autre, soit beaucoup d'inscrits et peu de prêts, soit beaucoup de prêts et peu d'inscrits. Une des conséquences du prêt illimité sera donc la baisse du nombre d'inscrits. Par la suite, nous verrons, avec le changement du logiciel en septembre, s'il est possible de penser à des cartes familles pour être plus pertinentes en raison d'une fréquentation familiale de la médiathèque. Donc, c'est une modification du règlement intérieur. C'est que l'article 6 qui est changé et qui devient l'usager peut emprunter autant de documents qu'il le souhaite et une liseuse pour 3 semaines. Les tablettes sont exclues du prêt à domicile. Les autres articles du règlement ne changent pas.
Voilà, tentative un petit peu d'essayer de booster un peu les pratiques d'emprunt de documents. A-t-il des questions, des commentaires? Non pas. Bon, c'est pas marqué dans le règlement, mais évidemment, les caddies seront interdits aux médiathèques. Ils sont à ne pouvoir emprunter que ce que les bras peuvent contenir, un peu comme les fleurs en forêt. Je vais proposer de mettre aux voix cette délibération qui s'y oppose, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité. Nous allons passer alors à une délibération en fait où le vote est formel, hein, puisqu'il s'agit de la présentation du rapport d'activité 2015 du marché public d'approvisionnement de Nangy. Donc il ne s'agit pas d'approuver ou de désapprouver ce rapport d'activité, mais de prendre acte qu'il nous a bien été présenté comme l'exige donc la délégation de services publics afférente. Madame Descottes-Galli, à vous.
Merci, Monsieur le maire. Le rapport relatif au marché public d'approvisionnement de Nangy est présenté par la société en participation Lombard et Guérin Gestion, délégataire du marché public d'affaires MASH, conformément à la délibération du conseil municipal numéro 2011-054 en date du 6 juin 2011. La première partie de ce rapport présente certaines données techniques relatives au fonctionnement du marché, moyens affectés, principales opérations effectuées. La seconde partie est consacrée aux commerçants eux-mêmes, mentionnant notamment le nombre de commerçants aux différentes dates et aux principales difficultés qu'ils ont rencontrées. Enfin, la dernière partie regroupe les données comptables et financières du marché. En 2015, le nombre de perceptions de droits des places a été de 3565 au lieu de 4078 pour l'exercice antérieur, soit une baisse de 12,58%. Les recettes des droits des places s'élèvent à 36 890,20 hors taxes au lieu de 42 292,60 hors taxes en 2014. Et diminue donc de 12,77% par rapport à l'exercice précédent, soit 5 402,40 euros. Cette baisse est en partie le résultat d'une moins grande fréquentation des commerçants et de l'impact de la crise économique. Le chiffre d'affaires de la gestion du marché a enregistré une baisse de 12,68%, 40 489,75 euros en 2015, dont 3 599,55 euros de publicité contre 46 370,91 euros en 2014, dont 4 078,31 euros de publicité, avec une redevance de 2 730 euros versés à la commune. Parallèlement, les dépenses ont diminué de 19,47% pour s'établir à 40 550,28 euros contre 50 227,90 euros en 2014. On peut noter une nette diminution des charges de personnel, 22 677,92 euros contre 31 329,52 euros en 2014. Les charges de promotion et de publicité 2015 reprennent le montant des produits perçus spécialement pour cette prestation, soit sur 12 mois, un montant de 3 599,55 euros. Cela se traduit finalement par un gain de 39,47 euros pour la société Lombard et Guérin Gestion sur le marché de Nangy, contre une perte de 3 856,99 euros en 2014. La situation s'est donc inversée en 2015, et ceci du fait de deux facteurs majeurs suivants. La baisse de la redevance versée à la ville de 4 865 euros, la baisse de postes personnels directs de 8 651,60 centimes d'euros. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport annuel qui sera mis à disposition du public. Merci.
Merci. Y a-t-il des questions, des commentaires sur ce sujet, M. Gavarou?
Oui, M. le maire. Comment peut-on expliquer la baisse du poste de personnel direct? C'est important.
Ça, c'est la gestion de Lombard et Guérin qui a diminué son personnel pour travailler sur le marché de Nangy, qui est au lieu d'employer 4 ou 3... Les employés ont préféré diminuer un poste.
Voilà. Peut-être aussi l'ancienneté du placier, là aussi, hein, puisque on a changé d'âge. Hein. Donc on a un jeune placier, alors que nous avions auparavant un placier qui était près de la retraite. Alors, les deux se confondant, voilà les chiffres qu'ils nous indiquent. Je dois dire que bon, les chiffres début 2016 sont plutôt en montée. Hein. D'autres questions? Observations? Je vais juste profiter qu'on aborde la question du marché forain pour informer le conseil municipal que nous avons été sollicités à la fois par des marchands forains, mais également par des commerçants sédentaires sur l'opportunité de redéplacer le marché de la place du Pompéro sur la rue du Général Leclerc. S'appuyant sur deux constatations en ce qui concerne les marchands forains, ils déplorent le fait que ceux qui sont installés place du Pompéro sont quasiment tous des non-alimentaires et que alors qu'auparavant, lorsque le marché était installé au Général Leclerc, pour aller faire ses courses auprès des commerçants alimentaires, il fallait absolument, quasiment obligatoirement, toujours passer devant les commerçants non alimentaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on peut effectivement venir par la rue Général Leclerc et ne jamais mettre les pieds sur la place du Pompéron. Et donc, si on regarde bien, c'est vrai qu'on a peut-être un marché qui est assez vivant autour de la halle, et puis sur la petite place attenante, et peut-être un peu moins vivant sur la place du Pompéron. Certains, je dis bien certains, et c'est ce qui va amener d'ailleurs la suite de mon propos, certains commerçants sédentaires se plaignent aussi du fait que les gens s'arrêtent moins le mercredi matin et le samedi matin, puisqu'ils vont directement à la halle, et donc ils pensent qu'ils ont une perte d'activité, une perte de clientèle que leur apportait le marché auparavant lorsqu'il était installé rue Général Leclerc. Nous ne sommes pas en mesure, nous, d'apprécier complètement le bien fondé de cette question-là, ni de savoir si aujourd'hui il est partagé plus largement. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser le mois d'octobre à lancer un questionnaire en direction des marchands forains, en direction des commerçants sédentaires de la rue Général Leclerc et du secteur, et également des clients du marché, pour connaître leur avis, voir s'il y a un sentiment majoritaire quant au maintien sur la place du Pompéron ou sur le retour sur la rue des Général Leclerc, qui se ferait forcément un peu différemment, puisque la rue Général Leclerc a été aménagée un peu différemment. Donc, mais bon, c'est une possibilité, techniquement ça peut se mettre en place, avec les inconvénients que nous connaissions, c'est-à-dire que du coup la rue Général Leclerc sera barrée forcément à un moment donné, ou dès l'entrée, ou lorsque sur une déviation sur le passage de la poterie. Je pense d'ailleurs que c'est sans doute la meilleure des solutions, puisque ça évite de contourner complètement le centre-ville. Ça pourrait avoir un avantage de redégager des places de stationnement, mais je dirais ça pourrait, parce que les jours de marché, la place du Pompéron, elle est bien prise quand même, hein, donc, et notamment par tous ceux qui travaillent dans les activités de ce secteur, donc c'est pas évident que ça dégage autant de places que cela. Mais si ça peut permettre à des marchands forains non alimentaires de mieux travailler, pourquoi pas, et surtout si ça peut permettre à des commerçants sédentaires aussi de regagner les clientèles, évidemment, pourquoi pas. Mais encore faut-il qu'il y ait un assentiment majoritaire. Si tel n'était pas le cas, eh bien, on en resterait sur cette forme d'installation. Donc voilà, on n'a pas d'idée toute faite de ce point de vue-là. Ça nous avait semblé être une bonne idée de réinstaller le marché Place du Pompéron, ce qui était prévu normalement au moment des travaux. Donc on a suivi cette décision que nous n'avions pas prise, mais parce que ne nous paraissait pas du tout absurde. Non, si elle peut porter préjudice au commerce local, il faut qu'on en prenne acte. Mais bon, très honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est pas absolument certain. Voilà, mais je tenais à en informer le Conseil de cette prise d'initiative. Et donc, on sera amené à revenir devant le Conseil pour discuter du résultat de la consultation. Monsieur Gabarou, je donne la parole.
Oui, monsieur le maire. Dans ce cas-là, il faudrait repenser aussi, si vous voulez remettre le marché rue du Général Leclerc, Le fait de la sécurité pour les pompiers, pour le passage.
Oui, bien sûr.
Ah, c'est ça, donc.
Bien sûr, ça signifie effectivement que les commerçants devront mettre leurs étalages sur les places de parking. Voilà, et qu'on laisse effectivement complètement dégager la voirie telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc le placier a fait ce travail. Ça peut nécessiter aussi peut-être de mieux remplir la rue du Dauphin. Ce qui est aussi une demande d'ailleurs des commerçants locaux, hein, et je pense à la boulangerie qui est tout en bas, qui se plaint du fait d'avoir plutôt des camions que, des commerçants, mais on a un petit peu de mal à convaincre les commerçants qu'ils seraient mieux là. Au contraire, le sentiment qu'il serait excentré, ce qui est un petit peu sans doute une bêtise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui remontent par la rue du Dauphin, hein, donc, qui passeraient aussi devant les étalages. Donc, ouais. Donc bien entendu, si on devait le réinstaller au Jean Leclerc, c'est en garantissant la sécurité et l'intervention nécessaire des pompiers. Donc on vous tiendra informé, hein, de ce que ça peut donner. On vous invite aussi, bien entendu, à inviter tout le monde, à tous les usagers du marché, à donner leur avis. Bon, je mets au voie le constat que nous avons bien eu ce rapport d'activité, hein, qui s'y oppose, qui s'abstient. Voilà, c'est un vote très formel, je le sais. Nous allons avoir un second vote aussi formel. Il s'agit du rapport d'activité 2015 du service de traitement des déchets ménagers présenté par le Smetum Géode. Et je donne la parole à M. Cyprès pour vous le présenter.
Merci, M. le maire. Conformément au décret numéro 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, le syndicat mixte de l'Est Seine-et-Marne pour les traitements des ordures ménagères, SMETOM, et la gestion économique et écologique des déchets ménagers, objectif de développement durable pour l'environnement Géode, transmettent leur rapport d'activité annuel à ses membres pour être porté à la connaissance de leur assemblée délibérante. Le rapport d'activité 2015 présente pour chaque type de déchets ordures ménagères, emballages ménagers, verre et papier, fermentés cibles, le tonnage de collecte et de traitement, ainsi que son ratio par habitant. Il prévoit notamment un volet sur le mode de traitement des déchets et son recyclage. Ce rapport se conclut par un bilan financier du syndicat. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2015 du SMETOM Géode. Vous avez la page d'après, la synthèse du rapport d'activité 2015. Merci.
Voilà, alors, donc si vous avez des questions à poser, Roger est tout à fait prêt à y répondre. Je repréciserai quand même que nous avons donc la présentation du rapport, bien que nous n'ayons plus la compétence ordures ménagères, puisque c'est la communauté de communes qui l'a, mais les 98 communes qui sont concernées par les 6 communautés de communes adhérentes ont bien entendu toujours accès à ces documents et le public, puisque c'est quand même un aspect important quand même, hein, de la contribution des ménages. Donc il est important de voir quelle peut être l'évolution. Voilà, je rappelle que c'est M. Ghislain Bray qui est le président du SMETOM.
Du Citradem aussi.
Et du Citradem, donc, qui est l'usine qui permet d'accueillir tous les containers jaunes pour être triés et envoyés.
Non, Michel, ça c'est le Citradem.
Le Citradem, c'est le grand syndicat qui réunit le SMETOM et le CIRMOTOM, donc le syndicat intercommunal du secteur de Montereau. Voilà. Avant, nous avions deux coprésidents du Citradem. Et le Citraval, qui est quand même très important.
Oui, tout à fait. Oui.
Des questions? Oui, M. Saussier.
Bon, simplement une remarque. Je pense que ce rapport est intéressant, mais je pense qu'il manque la comparaison par rapport à l'année précédente, tout au moins.
Vous aviez déjà fait cette remarque l'an dernier, je m'en souviens.
Que nous avons fait remonter. Que nous allons continuer de faire remonter, parce que effectivement, je pense que ça peut. Les évolutions sont intéressantes à prendre en compte. Monsieur Gabarou.
Oui, alors je vais un petit peu dans le même sens, dans le sens où est-ce qu'il était possible aussi d'avoir le ratio par habitant, mais mettons en J.
Ah, je l'ai, si vous voulez. J'ai.
Par rapport aux autres amis.
Alors, est-ce que les Nangiciens produisent plus de déchets que leurs voisins ou que la moyenne? Alors, nous avons les ratios par habitant concernant les ordures ménagères, les emballages ménagers, les papiers, les emballages en verre. La déchetterie, c'est sans doute plus compliqué, puisqu'on aura la déchetterie de Nangy, donc pas forcément que des Nangiciens. L'ordure ménagère, petite idée.
Oui, nombre de tonnes par habitant, Nangy, 3737.
C'est pas possible.
Mais oui, mais il faut dire, il va falloir le diviser par le nombre.
Oui, il faut diviser par le
nombre. Bon, alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que pour le prochain conseil municipal, on se livre à ce petit exercice et donc on donne au conseil un petit comparatif. Bon. On va prendre le nombre de tonnes et le diviser par 8500, à peu près. On pourrait avoir quelque chose...
Oui, c'est 8557. Oui.
Et donc, et combien de tonnes?
3737.
Voilà, diviser 3337 tonnes par 8500 habitants, et on devrait avoir le résultat en kilos.
Enfin, moi, je peux vous donner... Pour information, je peux vous donner combien paye la ville de Nangy pour le. Ça vous intéresse. Alors pour l'année 2015, Nangy a payé 1 101 472,74. Et pour cette année, je ne sais pas où j'ai les chiffres. Quelque chose, les chiffres de cette année. Oui, je vous ferai.
On fera ça, hein, mais d'après les chiffres que tu nous as communiqués, les Nangiciens produiraient plutôt 445 kilos par habitant, hein, donc ce qui serait nettement supérieur à la moyenne, un comportement de citadin, quoi. Voilà. Hein, donc. On pourra essayer de réaliser un petit peu la comparaison sur les ordures ménagères et puis les emballages, enfin le tri. Voilà, donc vous aurez ça pour la prochaine fois. D'autres questions? Donc on prend acte de ce rapport, qui s'y oppose, qui s'abstient. Nous avons pris acte à l'unanimité de la présentation du rapport avec des observations qu'on transmettra au président. 2016, septembre 118, rétrocession du réseau et ouvrage d'eau potable du lotissement Le Clos du Châtel, allée de la Grange-Olyme. Monsieur Huet, je vous passe la parole.
Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la demande formulée par l'association syndicale libre Le Clos du Châtel en date du 5 octobre 2013 de voir classer la voie privée allée de la Grange-Audime à Nangy par celle référencée au cadastre sous le numéro AC131, AC153 et AC148 pour une superficie totale de 1264 m², ainsi que l'ensemble des réseaux dans le domaine public communal. Lors de ces séances du 3 mars 2014 et du 14 décembre 2015, à l'unanimité, Le conseil municipal a déjà approuvé la rétrocession du réseau d'éclairage public et des réseaux et ouvrages d'assainissement aux usées et aux pluviales. Pour répondre favorablement à l'ensemble de cette demande, le conseil municipal devra autoriser le maire ou son représentant à intégrer dans le domaine communal les réseaux et ouvrages d'eau potable. Il est entendu que la future limite entre la partie publique du réseau d'eau potable et la partie privée sont situées sur chacun des branchements au niveau du compteur d'eau, le compteur étant lui-même rétrocédé. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant d'intégrer le réseau d'eau potable dans le patrimoine communal sans réserve, aucune intervention n'étant à signaler depuis sa création à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le dossier de demande de rétrocession est complet du point de vue technique. Le plan de récollement et cette pression est résultat d'analyse bactériologique. Ces ouvrages seront alors transférés dans le contrat de délégation du service public d'eau potable qui prendra effet à cette même date, donc 1er janvier 2017. Le maire ou son représentant pourra être autorisé à procéder ultérieurement à l'intégration de la voirie, chaussée et trottoir après une réfection totale réalisée selon un cahier des charges établi par les services techniques de la ville. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette rétrocession du réseau d'eau potable.
Merci Monsieur V. Donc c'est le troisième niveau d'intégration. Je vous rappelle que face à la demande de ce lotissement, nous avions d'abord effectivement intégré le réseau d'éclairage public après avoir vérifié sa conformité. Puis l'année dernière, nous avions intégré le réseau d'eau usée, puisque à partir du 1er janvier 2016, nous l'avions intégré donc dans le cahier des charges de la délégation de services publics assainissement. C'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là. Et puisque nous renouvelons la délégation de services publics au 1er janvier 2017, c'est la raison pour laquelle nous intégrons maintenant le réseau eau potable de façon à ne pas avoir un surcoût dans d'autres contrats. Et clairement, en ce qui concerne la voirie, c'est toujours notre position depuis le départ. C'est une position constante pour toute demande d'intégration. Il y a encore beaucoup de secteurs à Nangy où il y a des bouts de voirie privée. On peut étudier effectivement la possibilité d'intégrer cette voirie dans le réseau public, à condition que cette voirie soit refaite complètement et en fonction de notre cahier des charges et avec le contrôle de nos services. Il n'est pas question d'introduire dans le réseau de voiries communales des voiries mal réalisées ou réalisées sans notre contrôle. Donc on n'a aucune garantie sur celles-ci. Donc quand elles seront usées, les copropriétaires financeront donc la réhabilitation de leur ouvrage, et à ce moment-là, si le cahier des charges a bien été respecté, ça pourra être rétrocédé à la collectivité. Donc là, nous avons fait la même chose pour ce qui concerne l'assainissement et le réseau d'eau potable. On a vérifié que l'État était tout à fait conforme. Donc on n'est pas sur des installations très, très anciennes, et donc c'est plutôt normal d'essayer petit à petit de faire en sorte que l'ensemble des citoyens soient dans la même situation. Des questions, des commentaires? Je n'en vois pas. Je mets aux voix cette délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Dernière délibération, 2016 septembre 119, pardon. Il s'agit des redevances d'occupation du domaine public provisoire. par des chantiers de travaux réalisés sur les réseaux de distribution de gaz. Monsieur Godard.
Oui, merci Monsieur le maire. Par délibération du 17 décembre 2007, numéro 2007-177, le Conseil municipal a délibéré sur les nouvelles dispositions relatives à la redevance d'occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières issues du décret numéro 2007-606 du 25 avril 2007. Le décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 a institué une redevance supplémentaire pour l'occupation provisoire du domaine public de la commune par des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Ainsi qu'il résulte de l'article R2333-114-1 du Code général des collectivités territoriales, la redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le Conseil municipal dans la limite du plafond suivant. PR égale 0,35 que multiplie L. PR étant exprimé en euros, c'est le plafond de redevance due au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux par l'occupant du domaine. L représente la longueur exprimée en mètres des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle du titre à laquelle la redevance est due. Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre à laquelle la redevance est due.
Il est donc proposé au conseil municipal d'appliquer ces nouvelles dispositions sur la commune. Voilà. Bien. On encadre un petit peu plus les choses. Il y a des questions, des commentaires? Non. Je vais donc aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Il n'y a plus de délibération, mais deux notes d'information que je vais vous communiquer. La note d'information numéro 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée, EARL, de Pars, exploite des terrains agricoles d'une superficie de 220 hectares, principalement en culture céréalière. Elle souhaite diversifier sa position en cultivant, en complément, de la betterave et des légumineux nécessitant des besoins en eau importants. Un puits d'irrigation classique exploitant les nappes des calcaires de l'abri, la plus proche du sol, ne permet pas un approvisionnement suffisant en eau. L'EARL de Pars projette donc la réalisation et l'exploitation d'un forage d'irrigation visant à exploiter la nappe des calcaires de Champigny à une profondeur de 53 mètres, un petit peu plus haut que notre propre puits. Il pourrait y avoir sur l'exploitation la création d'un ou deux emplois dans les 5 à 10 ans à venir. Le ARL du Pars a donc demandé à la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne une autorisation de réaliser et d'exploiter un forage sur le lieu dit le Pars le 14 décembre 2015. À cette suite, l'Agence régionale de santé, le service régional d'archéologie ainsi que la police de l'eau n'ont émis aucune remarque sur le projet. Le conseil municipal de la commune de Nangy, en sa séance du 23 mai 2016, a émis un avis favorable avec des demandes d'informations complémentaires. Une enquête publique s'est déroulée du 19 avril au 20 mai 2016. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve. Donc on a connu, bien entendu, son avis bien après le 23 mai, puisque c'est à peu près un mois pour le rendre. L'enquête publique a permis de lever les points d'interrogation du conseil municipal du 23 mai, à savoir 1. Les risques de pollution dans la phase de travaux de forage. Voici ce qu'écrit le commissaire enquêteur. Deux bacs à boue réalisés soit en pleine terre sur bâche étanche, soit disposés hors sol via des réservoirs, seront créés pour la décantation. Durant les pompages de nettoyage, les eaux turbides issues de forages seront décantées par passage dans un bac de décantation. La qualité de l'eau sera contrôlée et éventuellement neutralisée si le pH est trop acide, avant rejet en milieu naturel. La cimentation du puits se fait sous pression, en circulation inverse de la tête de l'ouvrage. Elle n'aura donc aucun contact avec la nappe phréatique car elle est faite avant de forer les calcaires. Pour la réalisation de la dalle de propreté, le tube de forage dépasse 1 mètre du sol et la dalle de propreté mesure 50 cm. Il ne peut donc y avoir de pollution. Deuxième remarque, contamination par le décantat. Le décantat sera évacué par l'entreprise réalisant l'ouvrage, ce qui élimine le risque de contamination du forage par le dit décantat. Troisième observation, risque de pollution de la nappe de Champigny. Compte tenu de la localisation des parcelles à irriguer et de la quantité d'eau dispersée prévue, le processus d'irrigation présenté dans le projet n'entraîne pas de risque de ruissellement susceptible d'affecter la nappe de Champigny. Voilà donc les trois réponses du commissaire enquêteur. À la vue de l'ensemble de ces informations et des divers avis rendus, le préfet, par arrêté du 18 juillet 2016, a donc autorisé, au titre de la loi sur l'eau, le ARL de Pars à réaliser et exploiter un forage d'irrigation agricole sur le territoire de la commune de Nangis, lieu dit le Pars. Cet arrêté préfectoral, ainsi que l'étude d'impact valant notice d'incidence loi sur l'eau relative à la déclaration d'un forage d'irrigation et à la demande d'autorisation d'un prélèvement sur la commune de Nangis, sont consultables en mairie pour une durée d'un mois. Voilà, donc information communiquée donc au conseil. Note d'information numéro 2. Depuis l'année 1996 pour le CCAS de Nangis, délibération du 28 novembre 1996, et l'année 1999 pour la Caisse des écoles de Nangis, délibération du 26 janvier 1999, des agents communaux ont été mis à disposition réglementairement auprès de ces établissements après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Conformément à l'article 1er du décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008, l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale est informée préalablement des mises ou renouvellements de mise à disposition du personnel communal. À ce titre, et pour l'année 2016, est mis à disposition auprès de la Caisse des écoles de Nangis un adjoint technique de deuxième classe à raison de 28 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2016. Voilà, donc une petite modification donc à la mise à disposition pour l'année 2016 donc auprès de la Caisse des écoles. Voilà les notes d'information que je voulais vous présenter. Je vous prie de ne pas quitter votre siège puisque j'ai reçu une question orale posée par les deux groupes des élus de la majorité municipale et qui nous est posée par Madame Jérôme, c'est bien ça?
C'est bien ça, Monsieur le maire. Monsieur le maire, pour la première fois, la majorité du conseil municipal souhaite intervenir sur l'expression de l'opposition parue dans le Nangimag de septembre-octobre 2016. Comme beaucoup de nos concitoyens, nous avons été choqués des propos tenus par M. Gavarou. Il évoque dans des termes que ne renierait pas un parti d'extrême droite des événements violents imputables selon lui aux seuls musulmans. En créant volontairement ces amalgames et ces mensonges vis-à-vis de nos compatriotes de confession musulmane et les lâches qui tuent, il jette un trouble profond qui ne peut qu'entraîner une fracture. Cet appel à la haine ne peut être accepté. Cet appel à la discorde nationale relève de l'inconscience, à moins que cela ne soit pensé, réfléchi et dit volontairement. Une chose est de s'opposer sur un programme, une autre est de créer un climat de suspicion entre les citoyens d'une même ville, d'une même nation. Pour un élu de la République, il est indigne de tenir de tels propos sans courir le risque de voir la situation lui échapper. Comment pouvons-nous accepter de telles assertions qui remettent en cause les piliers fondateurs de la République, liberté, égalité, fraternité? Monsieur le sénateur maire, qu'en pensez-vous? Le groupe des élus de la majorité municipale.
Merci, Madame Géraud. C'est effectivement la première fois que nous avons à intervenir sur ce type de sujet. Je rappelle peut-être les propos incriminés dans votre question sur la partie. J'aurais aussi des choses à dire sur le reste, mais on va en rester là-dessus. Dans le Nangimac de juillet et août, un article très intéressant sur les bruits de voisinage nous donne les limites à ne pas dépasser. Or, le 6 juillet dernier, la Halle des Sports a été le lieu d'une manifestation d'envergure pour marquer la fin du Ramadan, avec nuisances sonores importantes, une sono ayant même été utilisée pour diriger les prières. Renseignement pris en mairie, personne n'était au courant de cette manifestation. Il est plutôt curieux qu'un rassemblement à caractère religieux ait lieu dans une salle dédiée à l'activité sportive. Affaire à suivre, espérons que cela ne se reproduise pas et que l'ordre public soit respecté. Premier commentaire, Monsieur Gabarou, si vous avez une question à poser, posez-la directement au maire, il vous répondra. Donc, nous étions effectivement parfaitement au courant. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions à cet article, qui est paru à une période en plus où il y avait l'affaire du Burkini, où on a encore beaucoup mis à l'index la communauté musulmane. Et je vais vous lire quand même deux réactions que j'ai reçues, deux réactions écrites. L'un, il s'agit d'un communiqué de l'association musulmane de Nangis. Je cite « C'est avec stupéfaction qu'une fois de plus, nous avons été la cible d'attaques injustifiées, stigmatisantes, surfant sur le climat ambiant de ces derniers temps. Doit-on une fois de plus rappeler que nous sommes tous nangiciens, que notre association a soufflé ses 30 bougies cette année, que nous traversons une crise sociétale anxiogène aiguë. L'heure doit être à l'apaisement, au rassemblement, à l'ouverture des uns vers les autres, plutôt qu'au repli sur soi et à la défiance quasi systématique de l'autre. Nous avions rappelé à l'occasion des journées portes ouvertes de notre mosquée, organisées en janvier dernier, l'une de nos problématiques à laquelle nous sommes confrontés, à savoir la lutte contre les préjugés issus des polémiques médiatiques quasi quotidiennes. Constamment, nous sommes au centre des débats et trop souvent absents de ces derniers. Cela a pour conséquence directe une augmentation record des actes islamophobes, ainsi qu'une incompréhension de cet acharnement de tentatives de privatisation de nos libertés individuelles. C'est dans ce climat qu'une fois de trop, nous nous retrouvons offensés, cette fois-ci au niveau local. Monsieur Gabarou, du groupe Nangis Oxygène, nous met en cause dans le Nangimag numéro 36, sous-entendant que nous sommes cause de troubles à l'ordre public, allant même jusqu'à nous mettre en garde pour que cela ne se reproduise pas, nous voilà rassurés. Nous souhaitons l'interpeller sur l'importance à tous de veiller à notre union citoyenne. Nous souhaitons lui faire savoir que pour ce rassemblement, d'une heure à peine le 6 juillet, à aucun moment l'ordre public n'a été troublé, contrairement à ce qu'il a affirmé. L'utilisation de la sono de 9h30 à 10h s'est faite à faible volume, si peu élevé que les personnes se trouvant à l'arrière de la halle avaient du mal à entendre l'ensemble du discours. Nous lui faisons savoir que nous avions un service d'ordre interne dédié à la circulation en particulier et à la surveillance des process en général pour veiller au bon déroulement de ce rassemblement. Nous le mettons en garde face à de telles accusations lourdes de conséquences qui ne cherche qu'à nous monter les uns contre les autres. À notre tour, nous lui demandons que cela ne se reproduise pas. Tout cela, bien sûr, dans notre intérêt commun et la préservation, de l'ordre public si cher à tous. Autre réaction qui émane du Conseil régional du culte musulman, de son vice-président, qui dit ceci, les Nangiciens de confession musulmane célèbrent l'Aïd dans la convivialité. Les habitants de Nangis, et notamment ceux qui sont de confession musulmane, ont été surpris de la réaction de Nangis Oxygène parue dans le dernier bulletin municipal. Dans un article, un représentant de l'opposition s'étonnait que la mairie de Nangis ait mis à disposition la salle de la Halle des Sports pour abriter, soi-disant, une manifestation d'envergure avec nuisance sonore importante. Le Conseil régional du culte musulman tient à rappeler que dans l'ensemble des communes de France, la mairie met à disposition des salles de sport ou des gymnases pour les citoyens de la ville de confession musulmane pour qu'ils organisent dans des conditions dignes et convenables les deux grandes fêtes musulmanes de l'année. Ces réunions se passent toujours dans une ambiance conviviale, sans nuisances sonores, dans le respect du voisinage et dans le respect de l'ordre public. Les Nangiciens de confession musulmane tiennent à renouveler leur chaleureux remerciement au sénateur-maire de Nangy, qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et qui, par son action, contribue au renforcement et la consolidation du vivre ensemble auquel nous aspirons tous. Je dois dire que, en ce qui concerne le bruit, j'ai eu un appel téléphonique, un seul, en mairie, pour se plaindre du bruit la veille du rassemblement. J'en ai pas eu depuis. Donc, plutôt quelqu'un qui avait peur qu'il y ait du bruit. Il n'en a pas forcément constaté. Je dois dire également que c'est effectivement la première fois qu'à Nangy, une demande nous est faite pour pouvoir accueillir des citoyens de confession musulmane qui, parce que la taille de la mosquée est maintenant trop réduite, ne peuvent plus accueillir dans des conditions correctes leurs fidèles, et nous demandent deux fois par an, au moment donc de la fin de Ramadan, de l'Aïd, puis de l'Aïd al-Kébir, de mettre à disposition une salle permettant de célébrer ces deux grands moments dans la dignité. Si nous ne l'avions pas fait, nous contraignons des citoyens nangiciens à prier dans la rue. Et je ne sais pas ce qui leur a été écrit à ce moment-là. Mais en tous les cas, ce n'est pas notre choix. Et d'ailleurs, ce n'est pas le choix de nombreux maires. Enfin, moi, je me suis fait un petit tour à Montreux, pas de problème. À Coulommiers, pas de problème. Et d'ailleurs, ça ne pose strictement de problème aux oppositions municipales. Donc, je dois dire que, effectivement, j'ai été extrêmement choqué, que j'espère que ces réactions feront peut-être prendre conscience à son auteur ou à leurs auteurs qu'il faut faire attention avec ce genre de choses à un moment où beaucoup de choses tentent à opposer les citoyens les uns aux autres. Voilà, moi, vous me connaissez, vous connaissez mes convictions. Je suis un antiraciste convaincu dans toutes ses composantes. Et je continuerai de permettre à la laïcité de s'exprimer à Nangy comme ailleurs. La laïcité, c'est quoi? C'est la séparation des églises et de l'État, de façon à mieux permettre de respecter les croyances, de respecter les consciences, et de permettre à chacun de croire en qui il veut, d'avoir les opinions politiques qu'il souhaite avoir, de pouvoir adhérer à un parti politique, à une organisation syndicale. C'est tout ça, la laïcité, dans de bonnes conditions, dans des conditions dignes. Donc, nous ne pensons pas avoir trahi, bien au contraire, cela. Je précise que s'est tenu il y a quelques jours effectivement un rassemblement également dans la halle des sports à la demande de l'association musulmane pour fêter comme il se doit l'Aïd el-Kébir. J'ai pas eu de retour de protestation, et il en ira comme cela les années prochaines. Voilà, on essaiera, on discutera avec l'association pour savoir si c'est la halle des sports qui est le lieu le mieux, le plus adapté. Il se trouve qu'aux deux dates, on ne pouvait pas offrir d'autres solutions. Mais vous voyez, sur des rassemblements comme celui-ci, quand le pape vient à Paris pour les journées mondiales de la jeunesse, je n'ai jamais entendu personne protester sur le fait qu'on mette à sa disposition le stade du Parc des Princes ou qu'on mette à sa disposition le Champ de Mars. Enfin, ça, voilà, c'est un moment exceptionnel qui touche effectivement des fidèles catholiques, pas tous les Français, mais voilà. Donc, il me semble que nous devons avoir la même considération pour l'ensemble des religions qui respectent, je dirais, la loi républicaine, et ça a bien été le cas dans cette affaire. Donc je souhaite effectivement que ce genre de choses ne se reproduisent plus en termes de contestation de ce que peuvent faire ou croire des habitants de Nangy. Je lève la séance.